Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, depuis mon domicile, qui vous parle, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous tous dans ce nouveau programme spécial de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Silvana Avellaneda et Julian Cortés, responsables du site web. En Argentine, un mois s'est écoulé depuis la quarantaine obligatoire décrétée le 20 mars par le gouvernement dans le cadre de la lutte mondiale pour mettre fin aux ravages de la Covid-19. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, le gouvernement du président Alberto Fernández annoncera la prolongation de l'isolement social pour 15 jours supplémentaires à partir du 26 avril. Tous les jours, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé établi par les autorités argentines sur notre site web www.rae.com.ar. Ils trouveront également les nouveaux schémas de transmission par ondes courtes, car en streaming, quotidiennement, on peut accéder à la programmation commune de Radio Nationale Argentine dans la plupart des signaux AM, FM et RAE. Dans un contexte où, selon les informations officielles, les cas sont maintenus sous contrôle, bien que le pic de personnes infectées dans l'ensemble du pays soit encore attendu, la question économique de l'Argentine est également une question centrale au niveau politique et social. L'Argentine avait déjà une demande de financement millionnaire auprès du FMI, plus une situation socio-économique critique qui est aggravée par la situation actuelle de la pandémie. Dans ce contexte, le ministre de l'économie, Martin Guzmán, a annoncé que l'Argentine a une situation de dette qu'elle ne peut pas se permettre. En même temps, il a indiqué que le gouvernement travaille sur un nouveau programme qui implique de ne pas effectuer de déboursement de capital dans les 3 années qui suivent. L'une des questions centrales dans tout ce processus est que le gouvernement national bénéficie du soutien des gouvernements provinciaux, ainsi que des secteurs les plus représentatifs de l'opposition. Les répercussions de l'annonce ne se sont pas fait attendre, en particulier de la part des capitaux privés spéculatifs. Guzmán a déclaré à la presse que certaines des réactions étaient prévisibles et il a affirmé qu'il s'agissait de comportements dans lesquels l'autre partie veut faire pression sur l'Argentine pour qu'elle offre davantage. Le ministre a déclaré que l'équipe économique travaille pour résoudre la crise sanitaire et économique et pour ouvrir un scénario dans lequel le pays peut payer, mais dans un contexte qui tient compte de l'idée que l'économie argentine se remette sur pied, se redressera et que la reprise ne sera pas étouffée par le paiement de la dette. Pour cette raison, Goumen a souligné la position du gouvernement argentin soutenue par toute l'arche politique. Si avant rien ne pouvait être payé, avec le coronavirus, encore moins, a-t-il dit. La priorité pour lui est de sauver des vies et d'améliorer les conditions de vie de la population. Maintenant, nous allons partager un rapport de l'agence officielle TELAM dont le titre est La pandémie met en lumière les inégalités posées par la nouvelle fracture numérique. Depuis le lancement de l'isolement obligatoire, des milliers d'étudiants de différents niveaux ont dû exercer leur activité au moyen de palettes numériques, ce qui a révélé certaines inégalités dans l'accès et la manipulation des appareils. L'enseignement à distance forcée, mené pendant un peu plus d'un mois par quelques 14 millions d'étudiants, leurs familles et des milliers d'enseignants dans le sillage de la pandémie de coronavirus, met en évidence les inégalités posées par la deuxième fracture numérique et la nécessité de formuler des stratégies futures dans lesquelles les cours en ligne et en face-à-face peuvent coexister, ont averti les spécialistes. Le 15 mars, le gouvernement national a ordonné la suspension des cours pour prévenir la propagation du coronavirus dans toutes les écoles, tant publiques que privées, au niveau initial, primaire et secondaire. Afin d'assurer la continuité de l'éducation des élèves, le gouvernement a utilisé la technologie pour fournir des cours en ligne, un processus sans précédent puisque, conformément à la loi sur l'éducation nationale en vigueur depuis 2007, ces cours ne peuvent pas être fournis aux élèves de moins de 18 ans. Nous sommes à une époque qui exige que nous cherchions de nouvelles voies. L'école est irremplaçable, tout comme le professeur. Mais lorsque nous retournerons dans les classes en face à face, nous devrons évaluer comment s'est déroulé tout ce processus et analyser les 14 années d'enseignement obligatoire, a déclaré le ministre de l'Éducation, Nicolas Trotta. Il a également noté que le contexte social que traverse le pays rend le processus d'enseignement à distance le plus complexe et il a exprimé le besoin d'être sûr du moment où les étudiants retourneront en classe afin que, à partir de là, des stratégies puissent être développées pour les différents scénarios qui se présentent. Cette semaine, nous avons souffert la perte d'un grand artiste argentin, un personnage très populaire et aimé, Horacio Fontova. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous pouvez fouiller sur le net. Et surtout, si vous comprenez l'espagnol, vous comprendrez ce que je vous dis. De Horacio Fontova, nous sommes en train d'écouter « Me tenés podrido »,« Je ne te supporte pas ».
Me tenés podrido, que me tenés podrido,
no
me tenés,
te
me tenés podrido,
no
me
te
tenés,
comas.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés,
comas.
Me tenés podrido, porque no te vas, porque no te vas,
porque no te vas, porque no te vas,
no me hagas un verso más. No me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido. Me tenés podrido,
no
me tenés,
te más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés,
más.
Me tenés podrido,
no
me
te
tenés,
más.
Me tenés podrido. Yo soy uno más, yo soy uno más.
Yo soy uno más, yo soy uno más. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta linda vida en paz. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta vida en paz.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Ay, me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido, que me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido.
Más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá. No me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Ay, me tenés podrido. Que me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido,
no te banco más.
Me tenés podrido.
Me tenés podrido, me tenés. 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 Me tenés que me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés. Me tenés podrido, me tenés.
Comment les gouvernements d'Amérique latine luttent-ils contre la COVID-19? Le coronavirus a fini par déferler sur l'Amérique latine. Malgré les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, la façon dont les gouvernements affrontent la pandémie varie d'un pays à l'autre et fait ressortir les options idéologiques qui fracturent le continent. Nous avons déjà vu qu'en Argentine, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Pour analyser ces politiques sanitaires, un internaute, Romain Migus, a bavardé fin mars avec Eduardo Meneses, activiste social, en direct depuis Quito, Équateur, et avec Marco Terruzzi, journaliste, en direct de Caracas, Venezuela.
Bonjour, bonjour. On va profiter du fait que nous sommes tous confinés, enfin pas tous, parce que vous allez le voir, pour analyser les différentes mesures en Amérique latine qui se prennent face à la pandémie de Covid-19. Une même pandémie mondiale, différentes réponses gouvernementales. Pour ça, nous sommes avec Eduardo Meneses, activiste social en direct depuis Quito, Équateur, et avec Marco Terruzzi, journaliste en direct depuis Caracas. Je vais commencer par Eduardo parce que j'ai vu que l'Équateur est le pays d'Amérique latine le plus proportionnellement touché par la pandémie du Covid-19. Eduardo, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les mesures prises par le gouvernement de Lénine Moreno et est-ce que la population se sent protégée?
Il y a tout un groupe de médecins qui vient officiellement de demander à l'État de renforcer la politique, la politique publique en termes de santé. Ça fait en réponse aux dernières mesures ou aux dernières annonces qu'a fait le gouvernement suite à une renonce de la ministre de Santé. La ministre de Santé en Équateur, quand elle renonce, elle dit clairement que sa renonce en plein milieu de la crise, vous savez la difficulté qu'il y a de prendre une décision de telle ampleur en plein milieu d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre, elle a dit clairement c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas le budget nécessaire pour affronter la crise. Le gouvernement, face à ça, a fait toute une série d'annonces qui ne veulent pas dire grand-chose. Entre elles, elle a dit qu'on n'avait pas de problème, qu'on a 120 millions de dollars pour affronter la crise, ce qui est risible quand on voit que la même journée, on était en train de payer 324 millions de dollars en dette au FMI, par exemple. Les médecins, ils sont en crise. Ça, c'est la première chose. Les médecins, ils sont en train de dire on n'a pas les moyens. Il y a les moyens minimums qui sont donnés aux personnes qui sont en première ligne, les personnes qui sont dans les urgences, qui sont en train de traiter les patients qui sont déjà confirmés de Covid. Mais tout le reste du système de santé n'a pas ces mesures-là, n'a pas le matériel suffisant pour se protéger, n'a pas les moyens pour se protéger. Le budget n'a pas été, depuis décembre, n'a pas été augmenté en matière de santé face à cette crise-là. Donc ça montre pourquoi l'Équateur, aujourd'hui, est dans la situation dans laquelle on est.
Vous êtes en confinement, comment ça se passe? Est-ce que le gouvernement donne les moyens de ce confinement à la population?
Alors là, on a traité, on va dire, la première partie qui est la face à la crise sanitaire. La crise économique et la crise en termes de droits économiques et droits sociaux, elle est encore plus profonde en Équateur. En Équateur, on a 60% de la population qui travaille de façon informelle, sans un contrat, sans nécessairement être dans la sécurité sociale, qui vit le jour le jour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'y travaillent pas un jour et n'ont pas nécessairement de quoi se nourrir pendant la semaine. Face à ça, il n'y a aucune mesure de protection structurelle qui a été donnée par le gouvernement. Je sais que dans d'autres pays, par exemple dans le Venezuela, on en a parlé de geler les loyers, par exemple de ne pas payer les loyers, de choses de ce type-là. En Équateur, il n'y a aucune mesure de ce type-là qui a été prise. Même les mesures qui ont été annoncées en termes de protection de l'autre 40% des personnes qui ont un emploi formel avec un contrat, il y a eu quelques mesures annoncées de freiner la possibilité de licenciement, par exemple. Il n'y a eu aucun décret concret qui a été donné. Ça a été juste une annonce faite à la télé sans aucune mesure concrète. On ne sait pas exactement ce que ça voulait dire, cette annonce-là. Donc, en ce moment même, on voit des licenciements se faire. On voit des abus aux droits des travailleurs qui sont en train de se mettre en place. Donc, on est dans une situation très critique face à la population la plus démunie en Équateur.
Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait eu des pillages à Quito. On en a vu aussi, il y a eu des pillages aussi en Colombie. Donc, les citoyens qui ont pillé des réserves alimentaires ou des magasins. On va aller à Caracas maintenant. Marco, est-ce que tu peux nous faire un panorama des mesures prises par le gouvernement bolivarien de Nicolas Maduro?
Oui, ici au Venezuela, le gouvernement a été, je crois, le premier en toute l'Amérique latine à prendre la mesure de confinement obligatoire dès le début de la crise. Tout d'abord, ça a commencé par la fermeture des frontières avec la Colombie et le Brésil. Ensuite, la quarantaine de certaines îles et finalement, ce qu'il a décrété comme la quarantaine totale qui a commencé il y a maintenant plus de 10 jours approximativement. Donc, on peut dire que ça a été la réponse la plus rapide et agressive face à la menace du coronavirus qui a donné en termes de chiffres pour le moment des résultats qui sont, si on le compare par rapport au reste de l'Amérique latine, assez positifs. Il y a 107 cas de coronavirus. Hier, Maduro a annoncé qu'il y a une personne qui est morte et il y a 2125 cas qui doivent être étudiés en urgence. Et en plus du confinement obligatoire, très vite a été mis en place un système de visite des médecins, ce qu'on appelle le casa por casa, maison par maison, en activant un système de données où chaque personne dans un système informatique dit si elle a des symptômes par rapport au fait de pouvoir avoir du coronavirus. Donc, l'État centralise cette information et envoie des médecins dans tous les endroits pour faire les tests de dépistage. Donc, entre les deux choses, le confinement plus la politique d'aller voir les gens pour voir s'ils ont les symptômes effectivement et commencer à s'occuper, a donné comme résultat que pour l'instant, les chiffres ne sont pas si alarmants. C'est tôt encore pour avoir un résultat définitif. Beaucoup d'analystes disent qu'on est dans la période où on va voir et justement, il y a le risque de ce que l'augmentation arrive plus tard. Mais pour le moment, je pense que les mesures ont été prises et ça a donné des résultats effectifs.
Marco, est-ce que tu peux nous mentionner aussi les mesures qui ont été prises pour donner à la population les moyens de se confiner, les mesures sociales et économiques décrétées par le gouvernement de Nicolas Maduro?
Oui, il y a plusieurs mesures. Je pense que la caractéristique du Venezuela, c'est que, étant donné que ça fait plusieurs années que le pays fait face à des situations très difficiles, notamment, disons, des actions qu'on peut qualifier de l'ordre d'agression, il y a toute une logique de réponse collective qui fait partie de ce qu'on a appris à faire pendant ces années. Donc, par exemple, il y a tout un mécanisme de distribution d'aliments qui s'appelle les comités locaux pour justement faire en sorte que les aliments subsidiés, qui sont un prix beaucoup plus économique que dans le commerce, arrivent de façon directe à toutes les pas à toutes les familles, à une grande partie des familles des secteurs les plus nécessités. Donc, ce genre d'exercice d'organisation populaire articulé avec l'État permet que face à cette situation, il y ait par exemple la possibilité de avoir une réponse par rapport à une des questions centrales qui est comment faire pour garantir, par exemple, l'alimentation dans une situation aussi critique dans un pays comme le Venezuela qui a une situation économique difficile. Donc ça fait partie des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement.
Oui, alors je rappelle aussi que le gouvernement donc, a gelé les loyers des particuliers, a gelé les emprunts faits aussi par les particuliers, a massifié les bons d'ajustement salariaux pour que les gens reçoivent de l'argent malgré le fait qu'ils ne vont pas au travail. Et puis, il a interdit les licenciements pendant 6 mois. C'est des mesures, je crois, importantes de rappeler au Venezuela parce que je crois qu'elles sont inédites dans le monde. Marco, toi, tu as eu la chance d'avoir une attestation ou une dérogation de journaliste. Tu t'es déplacé avec les membres du comité de santé et des médecins dans une commune socialiste, c'est-à-dire ces espaces territoriaux gérés directement de manière participative par la population. Comment était l'ambiance dans la rue, dans les quartiers populaires?
Déjà, une première conclusion que je pense que toute personne qui vit un confinement a pu le voir, c'est très difficile de freiner une ville, non? Surtout une ville comme une ville en Amérique latine où il y a beaucoup d'informalité, beaucoup de gens qui vivent le jour et donc sont obligés de sortir dans la rue pour voir comment arriver à trouver de l'argent suffisant pour pouvoir manger tous les jours. Donc, arrêter une ville est très difficile. D'ailleurs, ici à Caracas, le transport public est toujours en marche. Il y a très peu de systèmes, mais il y en a encore. Disons, si on pouvait donner un chiffre, on dirait que 80% de la ville est effectivement paralysée, mais il y a un 20% qui va toujours être en fonctionnement pour diverses raisons. Ça, dans le centre de la ville, et on le voit très clairement, par exemple, les supermarchés sont encore ouverts, on peut prendre le métro, même s'il y en a beaucoup moins. Dans les quartiers, beaucoup de gens restent chez eux, et il y a cette dynamique d'organisation où, disons que la même communauté qui a l'habitude de s'organiser par rapport, par exemple, dans un système de communes, face à la crise du coronavirus, décide de mettre en place toute cette organisation justement pour s'occuper de ses voisins, de tous les habitants du quartier. Donc ça donne une réponse collective. Et sur ça, ça se combine avec la réponse de l'État, qui est la réponse de justement mettre en place les structures de santé qu'il y a dans les quartiers, comme le Barrio Adentro ou le centre du diagnostic intégral, où il y a des médecins cubains et vénézuéliens, pour justement travailler de la main avec la communauté et aller maison par maison pour voir comment leur expliquer, parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en permanence, il y a ce travail qui est très important parce que les gens peuvent rester chez eux, ne sont pas obligés de sortir, voir un médecin s'ils ont un problème ou directement pour une réponse communautaire. Et je pense que ça fait partie justement de tout ce travail qui a été réalisé pendant des années au Venezuela.
Super. On va revenir avec toi, on va revenir avec Eduardo Benjamin, juste en un temps assez court. Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après, le jour où la pandémie sera vaincue? Est-ce que tu penses, Eduardo, qu'à Quito, en Équateur, en général, il y a une prise de conscience politique qui est en train de se faire en ce moment? Comment le jour d'après s'éveillera-t-il pour les Équatoriens?
Bon, on va dire que d'un point de vue de mesurer la tension sociale, c'est un peu difficile en ce moment parce qu'on a très peu de canaux de communication autres que les médias de masse, comme tu le sais, ils sont bien du côté du pouvoir. C'est difficile de savoir quels sont en ce moment les sentiments des gens. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que les mesures et la façon dont la crise est affrontée par le gouvernement est totalement va à l'encontre de tous les intérêts populaires. Quand on voit un peu ce qui s'est passé cette semaine, je te racontais un tout petit peu rapidement, donc on va rentrer dans le détail de ce qui s'est passé avec le paiement de la dette au Fonds monétaire international, c'est quelque chose qui est totalement absurde. Si on mesure un peu ce qui s'est passé en Amérique latine, en même temps qu'en Argentine, le président de l'Argentine était en train de dire au Fonds monétaire international, je suis désolé, on ne va pas payer un seul peso pendant les 5 prochaines années parce qu'on est dans une crise qui n'est pas seulement sanitaire mais qui est aussi économique et on aura besoin de cet argent-là pour faire que l'économie du pays redémarre. En même temps, l'Équateur était en train de payer pour la deuxième fois dans toute son histoire un montant de la dette exactement autant demandé. C'est-à-dire l'Équateur avait toujours été en retard. Donc, il n'y a eu qu'une fois dans l'histoire de l'Équateur on avait payé dans les temps. Et ceci s'est fait dans un jeu de spéculation financière particulièrement morbide. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui avait demandé officiellement au président et au gouvernement de ne pas payer la dette, de faire un moratoire sur le paiement de la dette. On peut dire que c'est des bonnes intentions, mais il y a aussi quelques intentions un peu perverses derrière. Pourquoi? Je l'explique rapidement. Au moment où l'Assemblée nationale fait cette annonce-là, la valeur des bons de la dette de l'Équateur se sont effondrées, évidemment, dans le marché spéculatif financier. Ce qui a fait que toutes les personnes qui avaient un lien privilégié avec le gouvernement et qui avaient la certitude que le gouvernement allait de toute façon payer après cette demande faite par l'Assemblée nationale ont profité pour en acheter beaucoup de ces bons de la dette équatorienne à un prix dérisoire. Le lendemain, le gouvernement annonce qu'il va payer. Évidemment, le bond qui est fait dans le prix de ces titres de la dette équatorienne a explosé et les personnes qui ont investi dans cette spéculation financière ont gagné 4 fois le capital. Tout ça se fait dans un jeu de spéculation financière de quelques personnes liées à la sphère financière, mais aussi liées au pouvoir, parce qu'il y avait de l'information privilégiée derrière, et qui donne comme résultat une annonce du gouvernement qui dit on ne va pas seulement payer ces 324 millions de dollars dans le temps et comme il le faut, mais dans tout ce mois, on va payer les 1200 millions de dollars qui doivent être payés. Totalement à l'encontre de ce qui a été annoncé de l'Argentine. L'effet de ceci, c'est qu'on va payer 10 fois plus que le budget qui est attribué en ce moment de crise pour la santé publique en termes de dette, alors que d'autres pays ont décidé de ne plus payer et que d'ailleurs le Fonds monétaire international est en train de dire qu'en avril, à sa réunion annuelle, va demander aux pays d'arrêter de faire payer leurs dettes à certains nombres de pays, parmi lesquels se trouve l'Équateur. Donc, non seulement l'Équateur est en train d'aller à l'encontre des intérêts populaires, il est en train d'aller encore plus loin que le Fonds monétaire international et même les marchés financiers qui devait se, soi-disant, réagir d'une bonne façon à cette bonne foi de l'Équateur, ont encore plus augmenté la note de danger, de risque de l'Équateur. Aujourd'hui, le risque de l'Équateur se situe au-dessus de celui de l'Argentine, par exemple, qui a décidé de ne pas payer. Donc ça n'a marché en aucun cas. Les gens sont en train de voir ce type de manœuvre-là. Et de plus en plus, on a accès à des informations comme quoi les hôpitaux ne suffisent pas, comme quoi il y a des gens, en ce moment, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes dans leur maison à Guayaquil. Et le ministère de la Santé n'est même pas allé chercher les cadavres. Donc on est dans une situation critique, alors que d'autres jouent à la spéculation financière sur ces morts-là. Donc,
pendant la pandémie, la spéculation continue et évidemment, ça sera de l'argent qui manquera pour pouvoir répondre à la crise sanitaire et puis certainement à la crise économique qui s'en suivra.